Livre 6. La veuve et l'épouse. Chapitre 1er. Durant cette matinée charmante où les meules de foin embaumaient l'air à Stone Court, tout comme si M. Raffles eût été un hôte digne de l'encens le plus délicat, Dorothée était rentrée à Lowick Manor. Fréchit était devenu pour elle, au bout de 3 mois, un séjour un peu pesant. Restée assise dans une pose de Sainte-Catherine, en regardant avec ravissement le baby de Célia, ne pouvait suffire à remplir les longues heures de la journée. Et, d'autre part, était-il admissible qu'une sœur sans enfant demeurât indifférente en présence de cet important personnage? Dorothée aurait volontiers et joyeusement porté bébé pendant 1 mille s'il l'avait fallu, et elle ne l'eût pour cette peine aimé que plus tendrement. Mais il est bien permis à une tante qui ne considère pas son petit-neveu comme un Bouddha, et dont tout le rôle auprès de lui consiste à l'admirer, de trouver à la longue sa conduite monotone, et l'intérêt de la merveille peut s'épuiser. Célia ne s'en rendait pas du tout compte, trouvant que le veuvage sans enfant de Dorothée coïncidait d'une façon toute charmante avec la naissance du petit Arthur, ainsi nommé à cause de M. Brooke. Dodo est une de ces créatures qui ne se soucient de rien avoir qui soit bien à elle, pas plus les enfants qu'autre chose, dit Célia à son mari. Et si elle avait eu un bébé, il n'aurait jamais pu être un amour comme Arthur, n'est-ce pas, James?
Non, s'il avait ressemblé à Casaubon, répondit James, conscient de la réserve qu'il mettait dans sa réponse et de l'opinion strictement personnelle qu'il gardait par-devers lui sur les perfections de son premier-né.
Non, imaginez-vous cela. N'est-ce pas une véritable grâce? Et n'est-il pas très agréable à Dorothée d'être veuve? Elle peut aimer notre bébé autant que si c'était le sien et entretenir toutes les idées originales qu'elle voudra.
Il est dommage qu'elle n'ait pas été reine, dit Sir James avec ferveur.
Mais qu'aurions-nous été alors? Nous n'aurions pu être ce que nous sommes, dit Célia, opposée à cet élan compliqué de l'imagination. Je l'aime mieux telle qu'elle est.
Aussi, quand elle s'aperçut que Dorothée faisait ses préparatifs de départ, Célia leva les sourcils d'un air contrarié. Puis, de sa manière tranquille et indifférente, elle lança sa petite flèche de sarcasme.
« Pourquoi retournes-tu à Lowick, Dodo? Tu dis toi-même qu'il n'y a rien à faire là-bas. Les gens y sont propres et si à leur aise que tu es dispensé de toute peine, et cela te rend tout à fait mélancolique. Et ici, combien tu as été heureuse de circuler partout dans Tipton avec M. Garth et de visiter les arrière-cours les plus misérables. Et à présent que mon oncle est absent, toi et M. Garth pourrez tout faire à votre guise, et il est bien certain que Sir James se conforme à tout ce que tu désires.
Je reviendrai souvent, et je n'en verrai que mieux votre bébé prospère.
Mais tu ne le verras jamais à l'heure où on le lave, et c'est justement le meilleur moment de la journée.
Célia était presque boudeuse. Elle trouvait très dur de la part de Dodo de quitter bébé alors qu'elle aurait si bien pu rester.
« Chère Kitty, je reviendrai et je passerai la nuit tout exprès à Fréchit, » dit Dorothée. « Mais j'ai besoin d'être seule maintenant et tout à fait chez moi. Je désire me lier davantage avec les Fairbrother et consulter M. Fairbrother sur ce qu'il y a à faire à Middlemarch. »
L'énergie naturelle de Dorothée avait cessé maintenant de faire place à une soumission acceptée. Désireuse de retourner à Lowick, elle ne se croyait pas tenue d'en dire ses raisons. Mais tous ceux qui l'entouraient désapprouvaient ce projet. Sir James en était très peiné et proposait d'émigrer tous à Cheltenham pour quelques mois avec l'Arche Sainte, autrement dit le berceau. Lady Chatham, la douairière, revenue dernièrement d'une visite chez sa fille à Londres, désirait au moins qu'on écrivît à Mrs. Vigo et qu'on la priât d'accepter le poste de dame de compagnie auprès de Mrs. Casaubon. Une jeune veuve comme Dorothée ne pouvait pas songer à vivre seule dans cette maison de Lowick. Mrs. Vigo avait été lectrice et secrétaire auprès de personnes royales, et sur le chapitre de l'instruction et des sentiments, Dorothée elle-même ne pouvait rien avoir à alléguer contre elle.
Mrs. Cadwallader lui dit en particulier, « Vous deviendrez certainement folle, toute seule dans cette maison, ma chère. Vous y aurez des visions. Ce n'est pas sans peine que nous parvenons tous à nous conserver sains d'esprit et à appeler les choses comme les appelle le commun des mortels. »
Je reconnais bien que vous êtes un peu tracassé ici par notre bonne douairière. Mais songez combien vous pourriez devenir vous-même incommode à vos semblables en jouant constamment à la reine de la tragédie et en cherchant toujours le sublime des choses. À rester seule assise dans cette bibliothèque de Lowick, vous en viendrez à croire que vous commandez autant. Il faut avoir quelques personnes autour de vous qui ne vous croiront pas si vous le leur dites. C'est là une bonne médecine calmante. Je n'ai jamais appelé les choses comme le commun des mortels autour de moi, dit Dorothée vivement. Mais je suppose que vous avez reconnu votre erreur, ma chère, et c'est la preuve d'un esprit sain. Dorothée sentit le piquant de ses paroles, mais elle n'en fut pas blessée. Non, dit-elle, je crois encore aujourd'hui que la plus grande partie de l'humanité se trompe à beaucoup d'égards. On peut certainement être sain d'esprit et penser ainsi, puisque la masse de l'humanité a souvent dû revenir sur son opinion. Mrs. Cadwallader n'insista pas davantage, mais elle communiqua ses réflexions à son mari. Il sera très heureux pour elle de se remarier dès qu'elle le pourra, sans blesser les convenances, si on peut l'amener dans le monde qui lui convient. Naturellement, les Chatham ne le désireront pas, mais je vois, à n'en pouvoir douter, qu'un mari serait le meilleur moyen de la tenir dans l'ordre. Si nous n'étions pas si pauvres, j'inviterais Lord Triton. Il sera marquis un jour, et on ne peut nier qu'elle ferait une belle marquise. Elle a l'air plus élégante que jamais dans ses vêtements de deuil. Ma chère Éléonore, laissez cette pauvre femme en paix. De telles combinaisons ne servent à rien, répondit le pacifique recteur. Ne servent à rien? Comment se font les mariages, si ce n'est pas en rapprochant les hommes et les femmes? Et c'est une honte que son oncle soit parti et enfermé à Grange, juste en ce moment. Il devrait y avoir quantité de parties convenables, invités à Freshit et à la Grange. Lord Triton, avec tous ses plans pour rendre les gens heureux par des voies pacifiques, est tout à fait l'homme qui conviendrait à Mrs. Casaubon. Laissez Mrs. Casaubon choisir elle-même, Éléonore. Voilà les bêtises que vous débitez, vous, les hommes sages. Comment peut-elle choisir si elle n'a pas de société variée qui lui en donne les moyens? Choisir pour une femme, cela signifie généralement prendre le seul homme qu'elle ait sous la main. Notez bien mes paroles, Humphrey. Si ses amis ne s'en mêlent pas, il se fera une affaire pire encore que l'affaire Casaubon. Pour l'amour du ciel, ne touchez pas à ce sujet, Léonore. C'est un point très délicat pour Sir James, et vous l'offenseriez grandement si vous lui en parliez sans nécessité. Je ne lui en ai jamais parlé. Célia m'a tout de suite raconté toute l'affaire du testament sans que je lui aie rien demandé. Oui, oui, mais ils veulent étouffer la chose. Et j'ai compris que le jeune homme allait quitter le pays. Dorothée persista doucement dans son projet, en dépit des obstinations et des efforts pour la retenir. C'est ainsi que, vers la fin de juin, tous les volets furent ouverts à Lowick Manor. La calme lumière du matin pénétra dans la bibliothèque, éclairant les rangées de volumes de notes comme elle éclaire une plaine désolée, semée d'énormes pierres, souvenir muet d'une foi oubliée. Et l'air du soir, chargé du parfum des roses, entra silencieux dans le boudoir bleu-vert où Dorothée se tenait de préférence. Elle parcourut d'abord toutes les chambres de la maison, interrogeant les 18 mois de sa vie conjugale et poursuivant ses pensées comme si ses pensées étaient les paroles que son mari dut entendre. Puis elle s'attarda dans la bibliothèque et n'eut pas de repos qu'elle n'eût soigneusement rangé tous les volumes de notes comme elle se figurait qu'il aimerait aller voir dans leur ordre successif. La pitié qui, de son vivant, avait toujours agi en elle pour la calmer et la vaincre, s'attachait encore à son image, en même temps que son cœur indigné lui reprochait son injustice. On sourira peut-être comme d'une espèce de superstition en la voyant plier, cacheter, et serrer dans son pupitre le tableau synoptique à l'usage de Mrs. Casaubon, après avoir écrit dans l'enveloppe « Je n'ai pas pu m'en servir. Ne voyez-vous pas que je ne peux pas soumettre mon âme à la vôtre en travaillant sans espoir à une œuvre dans laquelle je n'ai pas foi ?» Dorothée. Au travers et au-dessous de cet ordre de réflexion, un désir ardent et profond la possédait. Le désir de voir Will Ladislav. Elle n'attendait rien de cette entrevue. Elle était impuissante,
on lui avait lié les mains pour l'empêcher de faire réparation à Ladislav de la justice de son sort. Mais son âme avait soif de lui. Comment pouvait-il en être autrement? Si une princesse des contes de fées avait vu une créature à quatre pattes se détacher du troupeau, venir à elle et y revenir encore, arrêtant sur elle un regard humain suppliant, comme si elle l'avait reconnue dans la foule, à quoi eût pensé la princesse durant son voyage, qu'eût-ce cherché ses yeux dans les troupeaux qui défileraient devant elle? Sûrement ce regard qu'il avait distingué et qu'elle reconnaîtrait entre tous. La vie ne vaudrait pas mieux que le faux éclat d'une chandelle ou que la lueur blafarde d'un jour mourant, si ce que nous avons vu une fois ne nous créait au cœur, en s'y fixant, une source de désir et d'aspiration à le revoir. Il était bien vrai que Dorothée désirait mieux connaître les faits à Bladin. Mais il était vrai aussi que, se rappelant ce que Lydgate lui avait dit de Will Ladislav et de la petite Miss Noble, elle comptait que celui-ci viendrait à Lowick voir la famille Fairbrother. Le premier dimanche, avant même d'entrer à l'église, elle l'aperçut comme elle l'avait vu pour la dernière fois, seule dans le banc du ministre. Mais lorsqu'elle entra, il n'y était plus. Les jours de semaine, lorsqu'elle allait visiter les vieilles dames au rectory, elle attendait en vain qu'elle laissât échapper quelques mots de Will. Et il lui semblait que Mrs. Fairbrother parlait de tout le monde des environs et d'au-delà, de tout le monde, excepté de lui. Pauvre Dorothée! Elle ne savait même pas si Will était encore à Middlemarch, et elle n'eût osé le demander à personne, excepté à Lydgate. Mais comment voir Lydgate sans le faire appeler ou sans aller le trouver elle-même? Peut-être Will, ayant appris l'étrange sentence de bannissement que M. Casaubon avait laissée contre lui, avait-il senti qu'il valait mieux pour tous deux ne jamais se revoir? Et peut-être avait-elle tort de désirer une entrevue contre laquelle les autres trouveraient maintes bonnes raisons à élever. Et pourtant, au bout de ces sages réflexions, revenait toujours le même désir, aussi naturellement qu'un sanglot quand on a retenu sa respiration. Et cette entrevue eut lieu. Mais combien le formalisme cérémonieux en était inattendu pour elle! Un matin, vers 11 heures, Dorothée était assise dans son boudoir, ayant devant elle un plan du domaine et des papiers d'affaires qu'elle voulait examiner. Elle ne s'était pas encore mise au travail. Elle restait assise, les mains jointes sur ses genoux, suivant du regard la longue avenue de tilleuls jusqu'aux champs lointains. Pas une feuille ne bougeait sous la lumière du soleil. La scène familière, toujours la même, semblait représenter l'avenir de sa vie, pleine d'une aisance inutile, tant que son énergie ne découvrirait pas de puissantes raisons d'agir. La coiffe des veuves, à cette époque, faisait au visage un cadre ovale, avec une petite couronne se dressant sur le devant. La robe se composait du plus de crêpes possible, mais la grave solennité du costume faisait paraître son visage plus jeune encore, avec l'éclat du teint qu'elle avait retrouvé et la douce candeur interrogative de ses yeux songeurs. Sa rêverie fut interrompue par Tantrip, qui vint annoncer que M. Ladislav était en bas et demandait la permission de voir Madame, s'il n'était pas de trop bonne heure. « Je le recevrai, » dit Dorothée, se levant aussitôt, « qu'on le fasse entrer au salon. » De toute la maison, le salon était pour elle la pièce la plus insignifiante, la moins associée aux épreuves de sa vie conjugale. Le damas en était assorti à la boiserie qui était blanc et or, avec deux grandes glaces et des tables nues. C'était une de ces pièces où il n'y a pas de raison pour s'asseoir dans un coin plutôt que dans un autre. Elle était au-dessous du boudoir et avait également un bow window donnant sur l'avenue. Quand Pratt y fit entrer Will Ladislav, la fenêtre était ouverte et un visiteur ailé bourdonnant, tantôt en dehors, tantôt en dedans, donnait à l'appartement un air moins cérémonieux et moins inhabité. « Heureux de vous revoir ici, monsieur, » dit Pratt, s'attardant à arranger un volet. « Je ne suis venu que pour prendre congé, Pratt, » répondit Will, désirant que le sommelier lui-même sût bien qu'il était trop fier pour tourner autour d'une riche veuve. « Très peiné de l'apprendre, monsieur, » dit Pratt en se retirant. Comme un domestique qui ne devait être au courant de rien,
Il connaissait, bien entendu, le fait que Ladislav ignorait encore, et il en avait tiré ses conclusions. Il s'était même trouvé du même avis que sa fiancée Tantrip, quand celle-ci avait dit « Votre maître était jaloux comme un démon et sans motif. Madame aurait des vues plus élevées que ce monsieur Ladislav, ou je ne la connais pas. » La femme de chambre de Mrs. Cadwallader dit qu'il va venir un lord qui l'épousera, quand le temps de son deuil sera écoulé. Will n'eut pas longtemps à se promener dans le salon, son chapeau à la main, avant l'entrée de Dorothée. Combien leur entrevue était différente de cette première rencontre à Rome, où Dorothée avait été si calme et lui embarrassé. Cette fois, Will se sentait aussi résolu que malheureux, tandis qu'elle était en proie à une agitation qu'elle ne pouvait cacher. À peine arrivée devant la porte, elle avait senti que cette entrevue si désirée était cependant trop difficile, et lorsqu'elle vit Will s'avancer à sa rencontre, une vive rougeur, très rare chez elle, lui monta subitement et comme douloureusement au visage. Ni l'un ni l'autre ne sut comment cela se fit, mais ni l'un ni l'autre ne parla. Elle lui tendit ses mains, qu'il garda un instant. Puis ils allèrent s'asseoir près de la fenêtre, elle sur un canapé, lui sur un autre, en face d'elle. Will était singulièrement mal à l'aise. Dans ce changement d'accueil, uniquement parce qu'elle était veuve, il ne reconnaissait pas Dorothée. Il ne connaissait pas d'autres motifs capables d'affecter leurs rapports antérieurs, à moins, comme son imagination le lui suggéra aussitôt, que les amis de Dorothée ne lui eussent peut-être aigri l'esprit de leurs soupçons contre lui. « J'espère n'avoir pas trop osé en venant ici, » dit-il. « Je ne pouvais supporter l'idée de quitter le pays et de commencer une autre vie sans vous avoir revu pour vous dire adieu. »« Trop osé ? Certainement non. J'aurais trouvé peu aimable à vous de ne pas désirer me revoir, » dit Dorothée. Son habitude de parler avec une candeur parfaite s'affirmait encore au milieu de son trouble et de son agitation. « Allez-vous partir tout de suite ? Dans très peu de temps, je pense. Mon intention est d'aller à Londres et de me faire avocat, puisque c'est là, dit-on, la préparation nécessaire à tout emploi public. La besogne politique ne va pas manquer, et je veux tâcher d'en prendre ma part. Bien d'autres sont arrivés à se faire une position honorable qui n'avait comme appui ni famille ni argent. « Ce sera d'autant plus honorable, » dit Dorothée avec chaleur. « Et puis, vous avez tant de talent. J'ai su par mon oncle combien vous étiez éloquent en public, si bien que chacun regrette quand vous cessez de parler. Et quel art vous avez d'expliquer clairement les choses. Et vous tenez à ce que justice soit rendue à tout le monde. Cela me rend bien heureuse. Quand je vous ai vu à Rome, je croyais que vous n'aviez souci que d'art et de poésie, et de ces choses qui embellissent la vie pour nous autres, favorisées du sort. Mais je sais maintenant que vous vous occupez du reste de l'humanité. » Tout en parlant, Dorothée ne se souvenait plus de son embarras de tout à l'heure. Elle était redevenue semblable à la Dorothée d'autrefois. Elle regardait Will de son franc regard plein, exprimant une confiance délicieuse. « Vous approuvez donc mon projet de m'éloigner pendant quelques années ?» et de ne revenir ici que lorsque j'aurai acquis quelques distinctions dans le monde, demanda Will, tâchant de concilier la plus grande fierté avec le plus grand effort pour arracher à Dorothée une expression de sa sympathie la plus profonde. Elle ne se rendit pas compte du temps qui s'écoula avant sa réponse. Elle avait tourné la tête et regardait par la fenêtre les rosiers qui lui semblaient avoir en eux les étés et les fleurs de toutes les années que Will passerait loin d'elle. Ce n'était pas une conduite bien prudente. Mais Dorothée ne pensait jamais à étudier son attitude. Elle ne songeait qu'à s'incliner devant la triste nécessité qui la séparait de Will. Les premiers mots qu'il avait dits de ses intentions avaient paru tout expliquer pour elle. Elle pensa qu'il n'ignorait rien de toute la conduite de M. Casaubon envers lui et de ses dispositions dernières, et qu'il en avait ressenti le même choc qu'elle-même. Il n'avait jamais éprouvé pour elle autre chose que de l'amitié. Il n'avait jamais rien eu en tête qui justifiât ce qui lui semblait de la part de son mari un outrage à leurs sentiments communs. Et cette amitié, il la ressentait encore. Quelque chose qu'on pourrait appeler un sanglot intérieur et silencieux, avant qu'elle pût reprendre, de sa voix pure, un peu tremblante vers la fin,
sans qu'on pût l'attribuer à autre chose qu'à la flexibilité fluide de sa voix.
« Oui, vous aurez raison, sans doute, de faire comme vous dites, et je serai bien heureuse d'apprendre que votre mérite est reconnu et apprécié dans le monde. Mais il faudra de la patience. Cela pourra durer bien longtemps. »
Will ne sut jamais bien quelle force l'empêcha de tomber aux pieds de Dorothée quand ce bien longtemps s'échappa de ses lèvres avec son doux tremblement. Sans doute l'horrible noir et l'aspect de sa grande robe de crêpe. Cependant, il resta assis immobile et dit seulement « Je n'entendrai plus jamais parler de vous, et vous m'oublierez tout à fait. »
« Non, repartit Dorothée, je ne vous oublierai jamais. Je n'ai jamais oublié une personne que j'ai une fois connue. Ma vie a toujours été plutôt solitaire et semble devoir rester solitaire encore. Et j'ai beaucoup de temps à consacrer aux souvenirs, à Loïc, n'est-il pas vrai ?» Elle sourit.
« Grand Dieu !» s'écria Will avec passion en se levant. Et tenant toujours son chapeau à la main, il marcha vers une table de marbre d'où il se retourna brusquement et contre laquelle il s'appuya. Le sang lui était monté au visage et il avait presque l'air en colère.
Il lui avait semblé tout à coup qu'ils étaient là comme deux créatures qui se changeraient lentement en marbre, en présence l'une de l'autre, tandis que leur cœur savait et que leurs yeux soupiraient. Mais que faire? Jamais nul ne pourrait dire qu'à la fin de cette entrevue, à laquelle il était venu avec une fermeté amère, il se fût laissé aller à une confession que l'on aurait pu interpréter comme une prétention à la fortune de Dorothée. Il craignait aussi en ce moment l'effet qu'un tel aveu pourrait avoir sur Dorothée elle-même. Elle le regarda de sa place, un peu troublée, s'imaginant qu'il y avait peut-être eu dans ses paroles quelque chose de blessant. Mais, tout le temps, cette pensée que sans doute il avait besoin d'argent et qu'elle ne pouvait lui venir en aide, lui traversait l'esprit comme une lame aiguë. Si son oncle avait été chez lui, on aurait pu faire quelque chose par son entremise. Ce fut sous cette préoccupation de l'injustice qui privait Will de la fortune qu'elle possédait et qui devait légitimement lui appartenir, à lui, que le voyant demeurer silencieux et détourner la tête, elle lui dit « Aimeriez-vous peut-être avoir cette miniature qui est en haut, cette jolie miniature de votre grand-mère? Je ne sais pourquoi je la garderai, si vous en aviez envie. Elle vous ressemble étonnamment. » « Vous êtes bien bonne, » répondit Will d'un air irrité. « Non, je ne m'en soucie pas. » Ce n'est pas une très grande consolation que de posséder sa ressemblance. Il serait plus consolant que d'autres désirassent la garder. Je pensais que vous aimeriez achérir sa mémoire. Je pensais... Dorothée s'arrêta un moment, son imagination l'avertissant tout à coup de ne pas s'engager dans l'histoire de la tante Julia. Je pensais que vous aimeriez certainement à avoir cette image comme un souvenir de famille.
Pourquoi cela, quand je n'ai rien d'autre? Un homme qui, pour tout bien, n'a que sa valise, doit conserver ses souvenirs dans sa tête.
Will parlait au hasard, se laissant aller à sa violence naturelle. C'était aussi par trop exaspérant de se voir en ce moment offrir le portrait de sa grand-mère. Mais pour Dorothée, ces paroles eurent une signification particulière. Elle se leva et dit d'une voix qui trahissait un sentiment d'indignation et de fierté, « Vous êtes de beaucoup le plus heureux de nous deux, monsieur Ladislav, de ne rien avoir. »
Will tressaillit. Quel que fût le sens de ces paroles, le ton dont elles avaient été prononcées semblait le congédier. Quittant la table où il s'appuyait, il fit quelques pas vers elle. Leurs yeux se rencontrèrent, mais avec une étrange gravité, et comme s'interrogeant l'un l'autre. Quelque chose tenait leur cœur à distance, et chacun ne pouvait que conjecturer ce qui se passait chez l'autre. Jamais Will n'avait réellement songé qu'il pût avoir un droit d'héritage à la propriété de Dorothée. Et il eut fallu tout un récit pour lui en faire comprendre le sentiment qui animait présentement Mrs. Casaubon. « Je n'avais jamais senti jusqu'à ce moment que ce fût un malheur de ne rien avoir. Mais la pauvreté peut être aussi affreuse que la lèpre, quand elle nous sépare de ce que nous aimons le plus au monde. » Ces mots pénétrèrent jusqu'au cœur de Dorothée et l'adoucirent. Elle reprit d'un ton de triste sympathie, « Le chagrin vient de tant de façons différentes. Il y a 2 ans, je n'en avais aucune idée, je veux dire de la manière inattendue dont le malheur nous atteint, paralyse nos mains
et nos forces à nous taire quand nous aspirons à parler. Je méprisais alors un peu les femmes de ne pas mieux régler leur vie et de négliger tant de choses utiles. J'aimais beaucoup à agir à ma guise, mais j'y ai presque renoncé, conclut-elle en souriant avec insouciance. Je n'ai pas renoncé à agir à ma guise, mais il est bien rare que je puisse le faire, dit Will. Il se tenait à une petite distance d'elle, le cœur plein de résolutions contradictoires, désirant quelques preuves indubitables qu'elle l'aimait, tout en redoutant la situation où pourrait le mettre la preuve certaine de cet amour. La chose que l'on désire le plus peut être entourée de conditions qui la rendraient inacceptable. À cet instant, Pratt entra et annonça « Sir James Chatham est dans la bibliothèque, madame. » « Priez Sir James d'entrer, » dit immédiatement Dorothée. C'était comme si le même choc électrique eût passé par elle et par Will. Tous deux se sentirent fièrement résolus, et ils attendirent sans regarder l'entrée de Sir James. Celui-ci, après avoir tendu la main à Dorothée, fit un salut aussi léger que possible à Ladislav, qui le lui rendit exactement de la même manière. Se dirigeant alors vers Dorothée, Will lui dit « Il faut que je prenne congé de vous, Mrs. Casaubon, et sans doute pour longtemps. » Dorothée lui tendit la main et lui dit cordialement adieu. Le sentiment que Sir James faisait tort à Will et le traitait avec un dédain immérité réveilla en elle toute l'ardeur de ses résolutions et toute sa dignité. Il n'y eut pas la plus légère confusion dans ses manières. Et lorsque Will fut sorti, elle regarda Sir James avec un si calme sang-froid, tout en demandant « Comment va Celia ?» qu'il fut obligé de faire comme s'il n'eût ressenti aucune contrariété. Et pourquoi, d'ailleurs, eût-il fait autrement? Sir James repoussait avec tant d'horreur la simple pensée d'un rapprochement entre Dorothée et Ladislav, à titre d'aspirant possible à sa main, que de lui-même il désirait éviter tout signe extérieur de déplaisir qui semblât admettre cette possibilité désagréable. Son aversion pour ce Ladislav était d'autant plus forte qu'il se sentait incapable d'expliquer autrement que par le codicille de Casaubon l'horreur que lui inspirait cette idée, et également incapable d'intervenir. Mais Sir James représentait une puissance dont il ne se doutait pas lui-même. Sa présence à cette heure était comme la personnification des raisons péremptoires, en face desquelles l'orgueil de Will acquérait pour le tenir éloigné de Dorothée une force invincible. Chapitre 2. Dorothée, encore dans ce temps de la jeunesse où, après une abondante pluie de larmes pures, les yeux éclaircis regardent sous leurs longs cils épais comme une fleur de la passion à peine ouverte, Dorothée considérait sa séparation d'avec Will Ladislav comme la fin de tout rapport désormais. Il s'en allait dans l'inconnu des années lointaines, et si jamais il revenait, ce serait un autre homme qui reviendrait. Ses dispositions actuelles, sa fière résolution de donner d'avance un démenti à tous les soupçons qui pourraient le qualifier d'aventurier à la poursuite d'une femme riche, tout cela était bien loin de sa pensée à elle, et elle donnait à sa conduite la plus simple interprétation en supposant que le codicille de M. Casaubon lui avait paru, comme à elle-même, une grossière et cruelle interdiction de toute vive affection entre eux. C'en était à jamais fini du ravissement qu'ils éprouvaient à se trouver ensemble, jeunes qu'ils étaient tous deux, à se dire ce que personne d'ailleurs ne se fût soucié d'entendre. C'était devenu un trésor du passé. Pour cette raison même, la pensée de Dorothée s'y attachait sans scrupule. Ce bonheur unique était mort, et dans le sanctuaire maintenant silencieux et obscur où il avait existé, elle pouvait se laisser aller à cette douleur passionnée dont elle s'étonnait elle-même. Pour la première fois, elle détacha la miniature accrochée au mur et la garda devant elle, aimant à confondre en imagination la femme que le monde avait trop sévèrement jugée et le fils que son cœur et son jugement à elle défendaient. Celui qu'a jamais ravi la tendresse d'une femme pourra-t-il faire un reproche à Dorothée d'avoir pris alors dans le creux de sa main le petit portrait ovale, lui en faisant comme un nid, et d'y avoir appuyé sa joue comme pour consoler les créatures qui avaient souffert d'une injuste condamnation. Elle ne savait pas que c'était l'amour qui venait d'entrer dans son cœur, comme il apparaît dans un rêve précédant le réveil
avec les couleurs du matin sur ses ailes. Elle ne savait pas que c'était l'amour à qui elle adressait en sanglots ses adieux à mesure que son image s'évanouissait au clair regard du jour. Elle sentait seulement qu'il y avait quelque chose d'irrévocablement manqué et perdu dans sa destinée, et ses pensées pour l'avenir prirent d'autant plus facilement la forme de résolution. Les âmes ardentes, prêtes à construire d'avance leur vie à venir, se confient volontiers à l'accomplissement de leurs espérances. Un jour qu'elle s'était rendue à Fréchit pour tenir sa promesse d'y passer la nuit et de voir laver bébé, Mrs. Cadwallader y vint dîner aussi, pendant que le recteur était allé à une partie de pêche. La soirée était chaude, et il faisait étouffant, même dans le délicieux salon d'où l'on voyait par la fenêtre ouverte le beau vieux gazon descendre jusqu'à un étang au bord fleuri de lys. Une fois l'esprit bien en repos sur le compte de bébé, après divers incidents terminés, Célia, vêtue de sa robe de mousseline blanche et coiffée de boucles légères, se mit à plaindre tout haut Dodo du supplice qu'elle devait endurer dans sa robe noire et son étroit bonnet. Elle était assise depuis quelque temps, agitant son éventail, lorsqu'enfin, de son petit ton calme et saccadé, « Cher Dodo, dit-elle, enlève donc ce bonnet. Je suis sûre que ta robe te rend toute malade. Je suis si habituée à ce bonnet, il est devenu pour moi une sorte de coquille, répondit Dorothée en souriant. Il me semble que je suis comme dévêtue et que je m'offre en spectacle quand je ne l'ai pas. Il faut que je te voie sans ce bonnet. Il nous donne chaud à tous, dit Célia, déposant son éventail et allant à Dorothée. Cela faisait un joli tableau, cette petite lady en mousseline blanche, enlevant son bonnet de veuve à sa sœur plus majestueuse et le jetant au loin sur une chaise. Sir James entra dans la chambre juste au moment où Dorothée apparaissait avec ses tresses brunes, délivrées de leur prison et retombant autour de sa tête. La voyant ainsi, il fit un « Ah !» de satisfaction. « C'est moi qui ai fait cela, James, » dit Célia. « Pourquoi Dodo se rendrait-elle ainsi esclave de son deuil ? Elle n'aura plus besoin de porter jamais ce bonnet avec ses amis. » « Ma chère Célia, » dit Lady Chatham, une veuve doit porter le deuil au moins pendant un an. Mais pas si elle se remarie avant la fin de l'année, dit Mrs. Cadwallader, qui prenait plaisir à faire frémir sa bonne amie la douairière. Sir James parut contrarié et se baissa pour jouer avec le petit chien de Célia. Cela, j'espère, est très rare, répliqua Lady Chatham, d'un ton qui semblait vouloir mettre en garde contre de tels événements. « Aucune amie à nous ne s'est jamais compromise de la sorte, excepté Mrs. Beaver, dont la conduite a beaucoup affligé Lord Kinsell. Il y avait beaucoup à dire sur son premier mari, ce qui rend la chose d'autant plus étonnante. Et elle en a été sévèrement punie. On a dit que le capitaine Beaver la traînait par les cheveux et la menaçait avec des pistolets chargés. Ah, c'est qu'elle avait justement choisi l'homme qui ne lui convenait pas, dit Mrs. Cadwallader, qui décidément était d'humeur batailleuse. Le mariage, dans ces conditions, est toujours mauvais, un premier ou un second. La priorité est une triste recommandation pour un mari quand il n'en a pas d'autre. J'aimerais mieux avoir un bon second mari qu'un premier médiocre. « Ma chère, votre langue déliée vous emporte, dit Lady Chatham. Je suis sûr que vous seriez la dernière femme à vous remarier prématurément si notre bon recteur vous était enlevé. « Oh, je ne fais pas de vœux. Cela pourrait être un jour une mesure nécessaire. La loi permet de se remarier, je suppose. À quoi sans cela servirait-il d'être chrétien au lieu d'être hindou? Si une femme accepte l'homme qui ne lui convient pas, elle doit en subir les conséquences, c'est tout naturel. Et si elle se trompe deux fois de suite, elle mérite son sort. Mais si elle trouve à épouser à la fois naissance, beauté et courage, le plus tôt sera le mieux. » « Ce sujet de conversation me semble assez mal choisi, » prononça Sir James avec un regard de dégoût. « Je vous propose d'en changer. » « Que ce ne soit pas à cause de moi, Sir James, » dit Dorothée, résolue à ne pas perdre l'occasion d'en finir avec certaines allusions indirectes relatives aux excellents partis. « Si c'est pour moi que vous dites cela, je puis vous assurer qu'aucune question ne m'est plus étrangère et plus indifférente que celle d'un second mariage. »
Cela ne me touche pas plus que si vous me parliez de femmes qui chassent aux renards. Que ce soit admirable ou non de leur part, je ne les imiterai pas. Laissez, je vous prie, Mrs. Cadwallader s'amuser de ce sujet aussi bien que de n'importe quel autre.
« Ma chère Mrs. Casaubon, dit Lady Chatham de son air le plus important, vous ne croyez pas, je l'espère, que je fisse aucune allusion à vous en parlant de Mrs. Beaver. Ce n'est qu'un exemple qui m'était revenu à la mémoire. Elle était la belle-fille de Lord Grinsell, qui avait épousé Mrs. Teveroy en seconde noce. Il ne pouvait y avoir là d'allusion pour vous. « Oh non, dit Celia, personne n'a choisi le sujet avec intention. C'est le bonnet de Dodo qui en est la cause. » Mrs. Cadwallader n'a dit que ce qui était parfaitement vrai. Une femme ne peut pas se remarier avec le bonnet de veuve sur la tête, James.
« Chut, ma chère, dit Mrs. Cadwallader, je ne veux plus blesser personne. Je ne m'en référerai même pas à Didon ou à Zenobie. Seulement, de quoi allons-nous parler ? Je m'oppose pour ma part à ce qu'on discute sur la nature humaine, parce que rien ne ressemble plus à la nature humaine que celle de toutes les femmes de recteur. » Plus tard dans la soirée, après le départ de Mrs. Cadwallader, Celia dit en confidence à Dorothée, « Vraiment, Dodo, rien que d'avoir ôté ton bonnet, tu es redevenu semblable à toi-même, et de plus d'une manière. Tu as parlé résolument comme tu le faisais autrefois, quand tu entendais dire quelque chose qui te déplaisait. Mais je n'ai pas bien pu comprendre si c'était Sir James que tu trouvais dans son tort ou Mrs. Cadwallader. Ni l'un ni l'autre. Ce que Sir James a bien voulu dire était par délicatesse pour moi. Mais il se trompait en supposant que je m'inquiétasse du langage de Mrs. Cadwallader. Je ne m'inquiéterais que s'il y avait une loi pour m'obliger à accepter n'importe quel type de naissance, de beauté ou de courage, qu'elle-même ou tout autre me recommanderait. Mais, tu sais, Dodo, si jamais tu te remariais, ce serait d'autant mieux de trouver la naissance et la beauté, dit Celia, réfléchissant que Mrs. Casaubon n'avait pas été très richement favorisée de ce côté-là, et qu'il serait bien d'avertir Dorothée à temps. Ne te tourmente pas, Kitty. J'ai de tout autres idées pour mon avenir. Je ne me remarierai jamais, dit Dorothée, en prenant le menton de sa sœur et la regardant avec une indulgente affection. Celia allaitait son bébé et Dorothée était venue lui dire bonsoir. « Vraiment, bien sûr, dit Celia, absolument personne, même si c'était une véritable merveille ?» Dorothée secoua lentement la tête. « Absolument personne. Je fais des plans délicieux. Je voudrais avoir la direction d'un grand domaine à améliorer et à cultiver. J'y organiserai une petite colonie où tout le monde travaillerait et où tout le travail serait bien fait. Je connaîtrai chacun de ces braves gens et j'en serai l'ami. Je vais avoir de grandes conférences avec M. Garth. Il pourra me renseigner sur tout ce que je désire savoir. » « Alors, si tu as un plan, tu seras heureuse, Dodo, dit Celia. Peut-être le petit Arthur aimera-t-il les plans quand il sera grand, et alors il pourra t'aider. » Sir James fut informé ce même soir que Dorothée, bien résolue à n'épouser personne au monde, allait s'occuper de toutes sortes de plans comme elle faisait autrefois. Sir James ne répliqua rien. Son sentiment intime lui faisait trouver quelque chose de répugnant au second mariage d'une femme, et aucun parti ne l'aurait empêché de sentir que ce serait pour Dorothée une sorte de profanation. Il savait que le monde trouverait un tel sentiment absurde, contraire à l'ordre des choses, surtout quand il s'agissait d'une femme de 21 ans. L'habitude du monde étant de considérer le mariage d'une jeune veuve comme un événement certain et probablement rapproché, et de sourire d'une façon significative lorsque la jeune veuve agissait en conséquence. Mais si le choix de Dorothée était d'épouser la solitude, cette résolution lui siérait bien.